Bonjour Rami Chahat.
Bonjour.
Vous avez passé 900 jours en prison. Est-il exact que vous n'avez jamais été informé des accusations ou des soupçons qui pesaient contre vous? Et dans ce cas, pourquoi, d'après vous, avez-vous été emprisonné?
For 2.5 years on detention, I was only interrogated by a security public prosecutor for 45 minutes.
En 2 ans et demi de détention, je n'ai eu qu'un seul interrogatoire de 45 minutes par un procureur de la Sûreté d'État. Il m'a demandé quelles étaient mes opinions politiques. Il m'a parlé de la révolution 2011 et m'a demandé pour qui j'avais voté à l'élection présidentielle. Je lui ai demandé quel était le rapport avec mon cas. Il m'a répondu, nous accusons d'appartenance à une organisation terroriste. Je lui ai dit, mais de quelle organisation parlez-vous? Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me le dire. Ensuite, il m'a dit que j'étais accusé de répandre des rumeurs et des mensonges contre l'État sur les réseaux sociaux. Je lui ai répondu que je n'avais ni compte Facebook, ni compte Twitter, et que souvent les gens se moquaient de moi parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et effectivement, pendant toute ma détention, je n'ai cessé de demander « Mais pourquoi je suis ici ?» et je n'ai jamais eu de réponse. En réalité, c'est parce que je suis un militant politique, un défenseur des droits humains. J'ai participé à la révolution 2011 contre le régime de Moubarak, mais je suis aussi engagé pour les droits des Palestiniens et pour leur droit à l'autodétermination à travers le mouvement de boycott BDS. Enfin, je me suis opposé à ce que Donald Trump et Jared Kushner ont appelé l'accord du siècle, qui était une attaque contre les droits des Palestiniens et une tentative d'annexer et de voler ce qu'il reste de territoire palestinien. Je me suis exprimé contre et je me suis exprimé contre la décision de l'Égypte de participer à cette initiative. Et je crois que c'est pour cela que j'ai été arrêté.
Quelques jours après votre libération, Rami Chahat, est-il difficile de se reconstruire, de renouer le fil de l'existence après une telle détention dans des conditions difficiles?
Oui, ça prend du temps. 2 ans et demi dans une cellule de 23 mètres carrés occupée par 18 à 32 personnes. Par moments, nous devions dormir sur le flanc parce que nous n'avions pas la place. Nous dormions sur le sol. L'endroit était infesté d'insectes et de maladies. Il y avait un petit espace d'un mètre sur 1,50 mètre avec un trou au centre et une douche au-dessus pour y faire tout ce que nous avions à y faire. Oui, absolument. C'est un moment heureux d'être sorti de là, d'être avec ma famille, de revenir à la vie. Ça va prendre du temps de m'adapter, de comprendre ce qui m'est arrivé et de comprendre pourquoi ça arrive encore à 60 000 innocents égyptiens, des militants, des politiciens, des médecins, des avocats, des étudiants, sans raison, hormis le besoin du régime d'opprimer son peuple et d'utiliser la stratégie de la peur pour bloquer toute mobilisation.
Confirmez-vous que vous avez dû renoncer à votre nationalité égyptienne dans le cadre d'un accord pour votre libération et pourquoi, selon vous?
Oui, j'ai subi ce chantage pendant ma détention. Au début, j'ai refusé, mais sous la pression et avec le besoin de retrouver ma famille, j'ai dû accepter. Et il a été dit à tout le monde, y compris à des représentants français, à des représentants palestiniens et à d'autres pays, que je ne pourrais pas sortir sans renoncer à ma nationalité et sans être expulsé. Un chantage pur et simple. Oui, c'est tout à fait injuste, tout à fait inhumain, tout à fait illégal. Mais c'est leur tactique. Et je pense que le message, c'est soit vous êtes égyptien, soit vous êtes libre. Vous devez choisir. Si vous êtes égyptien, vous ne pouvez pas être libre. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Les droits politiques et les droits humains ne sont pas autorisés. Dans le cas contraire, vous ne devriez pas être un égyptien et vous quitter le pays. C'est inacceptable. Ma nationalité, ce n'est pas seulement un document. Ma nationalité, c'est mon identité, c'est ma vie, c'est ma famille. Je serai toujours égyptien, quoi qu'ils disent.
Comment voyez-vous la France? Est-ce que pour vous, c'est le pays qui a œuvré pour obtenir votre libération ou c'est aussi un pays qui entretient une relation parfois jugée problématique avec l'Égypte? On peut rappeler qu'Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne conditionnait pas la coopération avec l'Égypte au respect des droits humains.
Well, I definitely believe that the campaign my wife did.
Eh bien, je suis persuadé que la campagne que mon épouse a menée, qui a rassemblé des soutiens venus du monde entier, s'est combinée avec le soutien de l'Élysée et d'Emmanuel Macron pour ma libération.
Support from the Élysée and from Monsieur Macron for my release, and I thanked him.
Et je l'ai remercié pour ce soutien dès que je suis arrivé à Paris.
On that support. But yes, I agree with you.
Mais oui, cette diplomatie discrète, cette diplomatie du cas par cas ne suffit pas. Elle ne mettra pas fin à la crise en Égypte. Elle ne mettra pas fin aux attaques contre les droits humains et elle ne libérera pas 60 000 prisonniers. Oui, il faut faire plus. Il faut parler plus fort. Et j'appelle le gouvernement français à le faire. Par exemple, la coprésidence Union européenne-Égypte du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, c'est un désastre. Comment pouvez-vous croire aux mensonges des renseignements égyptiens sur qui est un terroriste quand vous savez avec certitude qu'ils utilisent le terrorisme dans leur cocktail de fausses accusations contre l'opposition, contre des défenseurs des droits humains, contre des médecins, contre des avocats? En réalité, cela affaiblit la lutte contre le terrorisme au lieu de la renforcer.
Vous avez été libéré début janvier. Récemment, d'autres personnes ont été libérées de prison. Patrick Zaki, Rami Kamal, Sana Swaif. Pourquoi, selon vous ?
It means that yes, growing pressure, maybe especially after the.
C'est le résultat de pressions croissantes, en particulier depuis le départ de Donald Trump, qui avait offert son soutien à l'Égypte et à d'autres dictatures pour intensifier leur oppression. Maintenant, avec l'administration Biden et avec d'autres évolutions en Europe, cela a mené à quelques libérations, mais c'est très insuffisant. Et il y a aussi beaucoup de changements cosmétiques, comme la fin de l'état d'urgence. Vous savez, dans la prison où j'étais, nous avions un tout petit espace où nous pouvions marcher sous une grande cage. Mais à côté, il y avait un jardin immense, une grande mosquée et des toilettes publiques. Et quand une délégation vient en visite, on leur dit que cela fait partie de la prison. Mais en 2 ans et demi, nous n'avons jamais été autorisés à nous rendre dans cet endroit. Donc oui, malheureusement, en Égypte, il y a cette photo mensongère et ces changements cosmétiques que l'on vend au monde extérieur.
Rami Shahat, il y a tout juste 11 ans, fin janvier 2011, l'Égypte se soulevait et renversait le président Hosni Moubarak. Vous étiez dans les manifestations. Est-ce que vos rêves de l'époque sont toujours vos rêves pour l'Égypte aujourd'hui?
Oui, je suis plein d'espoir pour une Égypte meilleure, pour une Palestine libérée et pour un Moyen-Orient plus stable, plus sûr et plus humain. Et je ne cesserai jamais de me mobiliser pour cela. Je crois que nous le méritons. Et je crois que c'est mieux pour le reste du monde d'avoir un Moyen-Orient plus sûr.
Merci, Rami Shahat.
Thank you very much.